l'Eucharistie, dans l'adoration, tout semble statique en apparence, mais en fait, tout est profondément dynamique si on laisse l'Esprit Saint toucher, saisir notre cœur. Et on peut dire que ce mouvement trinitaire qui est exprimé de manière assez explicite dans la liturgie, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur, toute louange, toute grâce, eh bien se trouve, se prolonge dans l'adoration eucharistique, où Jésus est le bon berger. Nous sommes la petite brebis, souvent fatiguée, peut-être blessée, peut-être désorientée. Jésus nous prend sur nos épaules, il faut se laisser faire, se laisser saisir tel que nous sommes par Jésus qui nous prend et qui nous conduit vers le Père. Dans ce mouvement, Jésus est sans cesse en train de prier, d'intercéder. Il y a ce mouvement de prière qui monte vers Dieu. Et lorsque Jésus nous conduit vers son Père, le Père nous comble de son Esprit Saint. Son Esprit Saint vient non seulement nous guérir intérieurement, nous pouvons dire nous évangéliser, et pour que nous puissions ensuite repartir avec, après avoir été façonnés une nouvelle fois par la Sainte Trinité. Hein, Jésus est le bon berger qui me prend sur ses épaules, il me conduit dans la maison du Père, et il me comble de son Esprit Saint pour faire de moi un nouvel homme. Alors c'est un peu le mouvement trinitaire de l'Eucharistie, et c'est le mouvement qui se passe souvent dans le secret d'une heure d'adoration, dans le silence. De temps en temps, le Seigneur est bon, il nous rejoint à travers notre sensibilité, on fait une expérience de sa présence, de sa douceur, et puis de temps en temps, c'est le désert, et pourtant il est là. Et si on passe par le désert, c'est qu'on a besoin du désert. Dans une vie, il y a toujours des temps de désert, des temps de terre promise. Il faut simplement laisser Jésus agir. Alors, pour introduire ce petit enseignement en fait sur comment adorer et un peu ce que l'adoration vient faire dans mon cœur, je pense toujours, j'aime bien citer une religieuse qui a fondé la communauté de l'adoration réparatrice que vous avez ici à Paris, Mère Marie-Thérèse Duboucher, qui avait découvert cette source d'eau vive qui est le cœur de Jésus et qui déplorait l'attitude de tant de personnes qui allaient essayer de puiser à d'autres sources qui, en fait, ne désaltèrent pas. Et elle écrit ceci en 1809, juste après la Révolution. « Misère humaine, on cherche la voie partout. On interroge la science, on lit des livres volumineux. On s'adresse à l'expérience, on observe, on réfléchit. On considère la créature dans l'ordre physique, moral, tout cela en quête de vie. Et le principe de vie est là. Il est à nous et nous le dédaignons, en parlant de l'Eucharistie, hein, bien sûr, pour aller boire à tous ces ruisseaux qui ne peuvent étancher notre soif. Qu'il est triste de voir les hommes qui se remuent en vain pour découvrir des moyens de trouver Dieu quand ils l'ont si près d'eux dans ce divin sacrement. Notre trésor véritable et cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Il y a quelques jours, j'ai eu la possibilité d'aller en Allemagne et dans une grande basilique, Altötting, je ne sais pas exactement comment on dit ça, et le pape Benoît XVI avait visité cette basilique et était descendu dans la crypte où c'était la crypte des trésors, c'est-à-dire tous les trésors de cette basilique absolument magnifique était contenue dans cette salle, enfin dans cette crypte, et c'était un vrai musée, un lieu de passage, un lieu d'émerveillement devant la beauté, la splendeur de tout cet héritage, tous ces biens. Et le pape rappelait dans cette église que le vrai trésor de l'église, hein, c'est pas toutes ces belles choses qui sont pour la gloire de Dieu, mais c'est avant tout la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Hein, le trésor, notre trésor spirituel, c'est l'Eucharistie. Et nous savons que ce trésor, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. Hein, c'est Jésus qui nous aime, qui nous appelle, qui nous désire. Alors, je disais un petit peu plus tôt que l'adoration, c'est vrai que souvent, c'est un petit peu comme aller au désert. Il faut reconnaître que c'est quand même assez difficile d'adorer. Si vous allez dans le désert et que vous voulez chercher de l'eau, il va falloir creuser. Et si vous creusez, vous allez transpirer, et puis il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours autant de terre ou de roc ou de sable dur, on va dire. Mais si on est fidèle, si on est persévérant, à un moment, la terre creusée va s'humidifier, Et si on continue, on va trouver de l'eau. Et quelle merveille de trouver de l'eau dans du désert. Alors l'adoration, c'est semblable. Il y a un certain combat, on pourrait dire, contre nous-mêmes pour rester fidèles à cette prière qui peut nous être difficile. Il faut reconnaître les choses. Mais si on est persévérant, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir donner une heure fixe. Bruno a rappelé, voilà, il y a quelques instants, l'importance de venir prier une heure par semaine à une heure fixe, parce que si on vient à une heure fixe, le fait de s'être engagé à une heure, c'est dans l'amour toujours qu'on s'engage, va nous aider à nous fidéliser lorsque ça peut être difficile de persévérer. Mais si on n'est pas engagé, lorsque c'est plus difficile, on risque de ne plus faire cette démarche et de rester un petit peu à la surface, de ne pas être arrivé à plonger, à rencontrer, de rencontrer quoi ? Rencontrer le cœur du Christ. Lorsqu'on est devant le Saint-Sacrement, il y a une dynamique de foi. Il faut poser des vrais actes de foi. C'est dur, il faut persévérer. Et puis le Seigneur peut nous donner des grâces de contemplation. C'est-à-dire qu'à un moment, on est comme saisi. On sait que Dieu est là. On sait qu'il nous aime. Il peut nous rejoindre pendant un instant par son amour. Et c'est quelque chose qui, même si ça dure un instant sur l'heure passée, ça comble non seulement cette heure, mais ça comble notre journée, ça comble notre semaine. Et ces grâces de contemplation, le Seigneur les donne selon son bon désir, mais j'ai envie de dire, il attend aussi que nous puissions les demander, les désirer. Et dans l'adoration, il y a ce vrai désir. L'adoration vient aiguiser ma foi. Elle éprouve, c'est vrai, ma foi, parce que quand je viens devant le Saint-Sacrement, qu'est-ce que je vais me dire au bout de 2 minutes? Il y a 2 possibilités. Soit je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et je pars en courant, en me disant, il y a tellement d'autres choses plus excitantes, plus intéressantes à faire sur cette terre. Soit je pose un acte de foi et je dis, Seigneur, tu es là. Je sais que tu es là, tu es mon Créateur, tu es mon Sauveur, tu es celui qui me donne la vie. Et Seigneur, le premier commandement, c'est l'adoration, reconnaître que tu es là. Et donc je viens passer du temps avec toi, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit plus meilleur, que d'être en présence de son Créateur. Alors ça peut être son Créateur, ça peut être son Père, ça peut être son époux, quelle que soit la manière dont on vit notre relation avec le Seigneur, mais en tout cas nous sommes avec celui qui nous fait vivre. Alors d'abord un petit rappel sur ce qu'est l'Eucharistie. J'aime bien reprendre ce que disait le cardinal Journet. Il rappelait dans ses livres absolument extraordinaires sur l'Eucharistie que pour comprendre l'Eucharistie, il faut toujours regarder la croix. Il y en a 2 ici, si je prends celle ici. Vous regardez un crucifix et sur la croix, Jésus va transformer la haine en amour. Ou plutôt, il va vaincre par son amour divin la haine qu'il subit, sachant que cette haine, c'est la haine, c'est toutes les haines, c'est toutes les violences, c'est tous les péchés du premier homme jusqu'au dernier, tout le mal qui a pu sortir du cœur de l'homme, parce qu'il peut sortir que du cœur de l'homme, pas de Dieu bien sûr, Jésus le prend sur lui et il manifeste un amour miséricordieux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il manifeste un amour vainqueur, un amour qui va dépasser cette haine. Et ensuite, on sait que Jésus, sur la croix, donc il transforme la haine en amour et il transforme la mort en vie. Il va vraiment mourir. 3 jours plus tard, il revient vivant, vainqueur de cette mort, de notre mort. Et il manifeste une vie qui est plus forte que la mort. Donc cette transformation de haine en amour, de mort en vie, Jésus veut, qui s'est passé il y a 2000 ans sur une croix, la Vierge Marie a pu le voir, Marie-Madeleine, Saint-Jean, quelques-uns ont pu le contempler. Nous, manque de chance, on n'y était pas. On vit aujourd'hui en 2015, ici en France. Et donc, pour que ce qui s'est passé là, sur la croix, se passe là, dans mon cœur, aujourd'hui, Jésus invente l'invention de l'amour, l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, il va comme insérer ce qu'il a fait sur la croix. Et s'il a fait sur la croix, alors qu'est-ce qui se passe? Juste avant de mourir, il prend du pain et il dit « Ceci est mon corps, littéralement sacrifié, enfin livré, offert, sacrifié par amour pour vous. » Et après, il prend du vin, ceci est la coupe de mon sang, versée, j'ai envie de dire, jusqu'à la dernière goutte, par amour pour vous. Il va déposer dans son dernier repas la victoire, cette victoire sur la haine, sa victoire sur l'amour. Il la met dans ce dernier repas, son repas pascal. Et ensuite, il dit « Faites cela en mémoire de moi ». De sorte que chaque fois que nous célébrons la messe, ici, dans cette paroisse, eh bien, ce qu'il a fait sur la croix est rendu présent là, sur l'autel. Un amour plus fort que la mort, une vie, un amour plus fort que la haine, une vie plus forte que la mort. Et quand on reçoit l'Eucharistie à la messe le dimanche, ou quand on contemple, quand on pose notre regard dans la foi sur Jésus dans l'Eucharistie, ce qu'il a fait est rendu présent, efficace dans mon cœur, dans ma vie. Hein, donc la messe me permet, l'Eucharistie célébrée, l'Eucharistie reçue, me permet de recevoir véritablement ce que Jésus, non seulement les fruits de la passion, c'est-à-dire cette victoire sur la croix, vient s'accomplir en moi, je reçois un amour qui est toujours plus fort que les haines que je pourrais rencontrer dans l'Eucharistie. Je reçois une vie, les germes de l'immortalité, disait le pape Jean-Paul II, hein, mais en même temps une puissance de vie, une force de vie qui trouve sa source dans l'Eucharistie. Donc non seulement les fruits de la passion, mais en même temps l'auteur, hein, Jésus-Christ, vivant, ressuscité, qui sans quitter le ciel, se rend présent à moi dans l'Eucharistie. Donc tout ce trésor qu'est l'Eucharistie, nous sommes appelés à le vivre à la messe, de manière plus communautaire, tous ensemble. Nous sommes appelés à le vivre dans notre cœur, dans la communion. Et puis nous sommes invités à prolonger et même à intensifier tout ce qui est célébré sur l'autel à travers l'adoration. Jean-Paul II disait, il parlait de ces trois dimensions du mystère eucharistique, sacrifice, banquet, présence, n'admet ni réduction ni manipulation. Il doit être vécu dans son intégrité, que ce soit dans l'acte de la célébration ou dans l'intimité avec Jésus que l'on vient de recevoir dans la communion ou encore dans le temps de prière et d'adoration eucharistique en dehors de la messe. Et juste après, le pape Jean-Paul II disait « L'adoration est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Hein, » c'est-à-dire, ce n'est pas simplement dans ma vie personnelle, mais lorsque j'approche de l'Eucharistie, c'est l'Église qui est là. Hein, Jésus s'est uni par son incarnation, il s'est uni à chaque personne, et son humanité, aujourd'hui glorifiée, glorieuse, est là, présente dans l'Eucharistie. Et de cette humanité, je reçois la plénitude de la divinité, hein, saint Paul, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, mais en même temps, c'est son humanité qui est reliée, j'ai envie de dire, à toute personne sur terre, hein, de sorte que chaque fois que j'approche dans la foi et dans l'amour l'Eucharistie, on pourrait dire qu'il y a un nouvel effet de la grâce du Seigneur ou de ce qu'il a fait sur la croix qui vient toucher toute personne. L'adoration n'est jamais un acte individuel, mais on pourrait dire que c'est un acte personnel. C'est-à-dire que je peux être seul avec Jésus dans une chapelle d'adoration, mais en fait je suis en personne devant celui qui est uni à toute l'humanité. Et le pape Jean-Paul II aimait rappeler dans ses enseignements que l'adoration est un service éminent. Il disait ceci, « Par l'adoration, le chrétien contribue à la transformation radicale du monde. Toute personne qui prie le Seigneur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. Hein, » dites-vous bien, lorsque vous êtes là, devant Jésus, quand le prêtre élève l'hostie à la messe, dans la grande doxologie, ou quand vous êtes là devant le Saint-Sacrement, dans la petite chapelle d'adoration, vous êtes là au nom de l'humanité. Vous êtes là, Jésus vous regarde, vous, bien sûr, qui êtes bien là, mais en même temps, il regarde toutes les personnes que vous représentez, toutes les personnes que vous aimez, et en même temps, d'une manière plus large, c'est l'humanité entière. On voit ça dans ces passages où Jésus se manifeste à Sainte Faustine. Vous connaissez cette fameuse image avec les rayons blancs et roses. Et en fait, très souvent, il était là exposé devant le Saint-Sacrement et elle voit ces rayons là qui sont sur l'image, en fait, qui partent de l'hostie. C'est de l'hostie que ça part, cette miséricorde. Hein, c'est le trône de la miséricorde, comme Jésus dit à Sainte Faustine. Et Faustine voit que ces rayons qui partent de l'hostie ne vont pas s'arrêter sur elle. Ce n'est pas simplement un cœur à cœur, Jésus-Faustine, mais par sa présence, c'est l'humanité qu'elle apporte à Jésus. Et en même temps, Jésus est uni à toute l'humanité. Donc il y a comme un dynamisme spirituel invisible qui s'opère chaque fois qu'on approche de Jésus. Elle voit ces rayons qui partent de l'hostie, qui vont transpercer son cœur, réchauffer son cœur, et derrière elle, c'est toute l'humanité. Ces rayons vont toucher toute personne avant de revenir dans la Sainte Hostie. Alors, avant de préciser quelques petits détails, encore deux, trois points un peu plus, on va dire, sur les fruits de l'adoration, j'aime bien rappeler ce témoignage assez bouleversant de Saint Damien de Molokai, l'apôtre des lépreux, qui nous invite tout simplement à déposer aux pieds de Jésus tout ce qui est lourd, pénible dans notre vie. Lorsqu'il demande à ses supérieurs de partir à Molokai, vous savez, il était dans l'archipel d'Hawaï comme missionnaire, il découvre, bon, il fait son travail de missionnaire, comme un bon missionnaire, il enseigne, il évangélise, il soigne, il guérit, enfin, il fait un peu tout ce que les missionnaires faisaient à l'époque. Et ensuite, il découvre qu'à Molokai, tous ceux qui sont atteints de la lèpre sont condamnés, eh bien, à partir dans cette île du non-retour. On pouvait y aller que dans un sens, et ils étaient condamnés à mourir dans une misère physique, ils n'avaient aucun soin, une misère morale, ils faisaient tout et n'importe quoi, et une misère spirituelle, ils connaissaient pas Dieu. Donc il va demander, il insiste pour partir là-bas, et il partira là-bas, il mourra de la lèpre avec ses lépreux d'ailleurs, mais un des premiers actes qu'il fait lorsqu'il arrive sur cette île, il écrit ça dans une lettre, dans plusieurs lettres même, il célèbre la messe, il reconstruit d'abord quelques autels, il célèbre la messe, il expose le Saint-Sacrement et il fait venir les lépreux. Voilà, devant le Saint-Sacrement. Il organise même l'adoration perpétuelle. Il est dit jour et nuit, les lépreux venaient adorer Jésus. Et alors il y a un moment où il fait venir les lépreux un par un en reprenant ce passage biblique. Vous savez, un lépreux vient voir Jésus, tombe à Jésus, Jésus lui dit « Que veux-tu ? Je veux être guéri. » Jésus le toucha et il repartit guéri. Et alors il relit ce passage de la Bible avec le lépreux là et Jésus vraiment présent dans l'Eucharistie. Et alors ils vont faire cette rencontre. Ils vont peut-être pas être guéris dans leur chair, mais ils vont faire la rencontre avec cet amour du Christ qui leur permet de trouver une espérance malgré l'horreur, enfin leur maladie et toutes les souffrances qu'ils devaient endurer. Et on a trouvé certains des poèmes de ces lépreux qui avaient écrit. Des témoignages, des poèmes qui font partie des beaux textes qu'on peut trouver, j'ai envie de dire des plus beaux textes qu'on trouve, d'une histoire d'une âme qui découvre l'amour que Jésus a pour nous dans l'Eucharistie, qui vient nous soutenir, nous consoler, nous donner la force. Alors lui, Damien de Molokai, disait ceci: « C'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une position comme la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, eh bien, je continue d'être toujours heureux, content, avec cette gaieté de cœur, le rire sur les lèvres. Je travaille avec zèle au bien des pauvres malheureux lépreux, et petit à petit, sans trop d'éclat, le bien se fait. Jésus au Saint-Sacrement est le plus tendre des amis avec les âmes qui cherchent à lui plaire. Sa bonté, c'est se proportionner à la plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne craignez donc pas, dans des conversations solitaires, de l'entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances. Faites-le avec confiance et à cœur ouvert. » En d'autres mots, le Christ nous aide véritablement à vivre ce qu'on pourrait dire notre grâce d'État, notre devoir d'État, notre travail, notre famille, ce qu'on fait tous les jours. Le Christ vient nous donner la force d'avancer. Combien de fois dans l'Évangile, Jésus dit « Venez à moi ». Venez à moi, vous tous qui peinez, éployés sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, reposez-vous dans un coin désert. Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive de mon cœur coulera un fleuve d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui viennent en sa présence. Les foules allaient à Jésus parce que lorsqu'ils touchaient Jésus, par la foi évidemment, Jésus agissait dans leur cœur. Jésus faisait, j'ai envie de dire, une merveille, Jésus, voilà. Et donc, de même qu'il y a 2000 ans, Jésus agissait lorsqu'il y avait la foi, aujourd'hui, nous sommes invités à faire travailler le Saint-Sacrement. C'était la grande expression de Saint-Pierre Julien Aymar qui disait « Nous allons faire travailler le Saint-Sacrement en exposant l'Eucharistie, après avoir fait tout ce qu'on a, notre devoir, tout ce qu'on a dû faire, toute notre journée, notre semaine. » Voilà, alors c'est la messe d'abord, évidemment, le premier lieu, le sommet de notre rencontre avec l'Eucharistie. Mais ensuite, nous sommes appelés à prolonger ceci à travers cette heure d'adoration. On expose Jésus et on laisse, par notre foi, on laisse Jésus accomplir les merveilles qu'il veut faire en nous et dans notre monde. Juste sur cette transformation que Jésus opère dans mon cœur, j'aime bien citer Marie-Pauline Jaricot, cette grande sainte lyonnaise qui a vécu une conversion radicale en priant la nuit devant le Saint-Sacrement. Elle était une fille d'un riche industriel lyonnais et elle découvre l'amour du Christ qui la pousse à se faire embaucher par son père comme une des ouvrières de son père et à partager leur existence. Et ensuite, elle aura une immense fécondité spirituelle à travers toutes ces œuvres qu'elle organisera pour le diocèse de Lyon. Elle arrivera à soutenir les missions étrangères, les missions dans tous les pays du monde. Et puis à la fin, elle a été complètement abandonnée, alors elle a été trahie. Enfin, c'est très compliqué, la fin de sa vie, mais elle finira plus ou moins en faisant la manche au pied d'une église lyonnaise, et comme testament spirituel, juste avant de mourir, elle écrit ceci: « C'est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur desséché par les plus rudes épreuves a constamment trouvé les forces nécessaires pour en supporter la rigueur. C'est là que mes combats se sont changés en victoire, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumière, ma tristesse en joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le prochain en ardente charité. Tout ce que je sais, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. Recevez donc l'hommage de tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je pourrai jamais penser, dire et faire de bien. » Voilà, c'est un très beau témoignage où on voit la puissance de transformation de l'Eucharistie. Hein, celui qui a dit « que la lumière soit et la lumière fut », il prend du pain. « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et lorsqu'on vient devant l'Eucharistie, Jésus prend notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Il renouvelle notre regard. Il nous donne un nouveau regard sur Dieu, qui est Dieu, un nouveau regard sur nous, déjà, qui nous sommes, un nouveau regard sur le monde, sur nos activités. Donc, l'Eucharistie transforme, voyez, ça n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, disait saint Paul. Alors, revenons sur des choses un peu plus concrètes par rapport à des conseils pour adorer. Je relisais il y a quelque temps « Le petit prince et le renard » de Saint-Exupéry. Vous avez tous lu ça, je pense. Et alors, c'est très intéressant, cette relation entre le petit prince et le renard. Et ça nous parle, hein, de comment approcher Jésus dans l'Eucharistie. Alors, je lis un tout petit paragraphe. Alors, c'est le renard qui parle. « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. « Que faut-il faire ? » dit le petit prince. « Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » Voilà, je trouve que c'est très beau. Et ça nous parle beaucoup, on pourrait dire, de cette relation avec Jésus dans l'Eucharistie, qui est une relation d'amitié. Hein. Il n'y a pas de... On me demande, est-ce qu'il y a une méthode pour adorer ? Non, moi je ne connais pas en tout cas, peut-être vous, mais moi je ne connais pas de méthode, parce que c'est véritablement une amitié, hein, c'est une amitié. Le christianisme, c'est l'amitié avec Jésus, et lorsque je suis ami de Jésus, Jésus dépose dans mon cœur ses sentiments, sa volonté, ses désirs, et sa charité qui va ensuite faire de moi les amis des autres, l'ami des autres, hein, d'aller vers le prochain. Donc, une fois de plus, c'est... Une relation, ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique, ça ne s'achète pas, ça ne se force pas, c'est simplement du temps, de la patience. Et on sait bien, nos bons amis, on a tous des bons amis, des personnes avec qui on a une vraie amitié, ces gens-là, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain, pris du temps, petit à petit. Hein, on a vu nos amis, on a découvert nos amis, mais on a besoin de temps. Et donc dans l'adoration, pour vivre cette vraie amitié avec Jésus, l'adoration me donne cette grâce, voyez, m'aide à plonger, à approfondir cette amitié avec le Christ. En d'autres mots, est-ce qu'il faut beaucoup de mots? On peut parler à Jésus, bon, il est toujours content quand on lui parle, Jésus, mais en même temps, c'est vrai qu'à un moment, les paroles ne sont plus importantes. Ce qui compte, c'est la présence du bien-aimé. Vous voyez, c'est d'être avec celui qu'on aime. Et c'est pour ça que le Christ reste avec nous. C'est la présence réelle de Dieu. Et souvent, la présence réelle de Dieu, il y a l'absence réelle de l'homme. Vous voyez, mais dans une chapelle d'adoration, il y a la présence réelle de l'homme, la présence réelle de Dieu. Vous voyez, voilà, comme ça, on répond vraiment à ce désir du Christ qui, par amour, dans l'amour, on veut être avec la personne que l'on aime. Le Christ voulait trouver une manière de prolonger cette présence avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela qu'il choisit de rester, de demeurer parmi nous au tabernacle. Il pourrait très bien, quand il a inventé l'Eucharistie, eh bien avoir pensé un système pour que, à la fin de la messe, il remonte au ciel, ou alors que l'Église nous aurait dit il faut absolument consommer toutes les hosties, point, c'est comme ça, à la fin de la messe. Non, on sait que ce n'est pas passé comme ça. Et si le Christ reste dans le tabernacle, alors certes, c'est pour pouvoir donner la communion aux malades, si jamais, voilà, mais aujourd'hui, c'est aussi pour, dans toutes les églises, le Christ reste là pour qu'on puisse le rencontrer. Donc non seulement l'aimer, lui qui est présent, et puis en même temps se laisser aimer, parce que l'Eucharistie aussi, c'est le cœur de Jésus. Il nous a aimés avec un cœur d'homme, un cœur qui nous aime, et un cœur qui a soif d'être aimé en retour. Le curé d'Ars disait « On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là, dans le tabernacle, on lui ouvre son cœur, on se complaît en sa présence. » C'est la meilleure prière, celle-là. Allez, il est là, je suis là, et c'est tout. Alors, c'est tout, sachant qu'il faut toujours faire un petit acte de foi. Il faut toujours un petit peu sortir de soi-même. Vous voyez, si on vient simplement pour dormir, ce n'est pas une bonne idée. Si on vient et qu'on s'endort, ce n'est pas grave. Parce que bon, on est venu et puis on s'est endormi. Mais ce n'était pas le but. C'est-à-dire que je ne vais pas aller pour dormir. Vous voyez, donc, je viens et j'ai toujours... Je pose toujours un acte de foi. Seigneur, tu es là. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, aide-moi. Donc il y a toujours, même, on n'a pas besoin de faire beaucoup, de dire beaucoup, mais il faut toujours quand même avoir son cœur tendu, désirant le Christ qui est là. Benoît XVI disait, il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'humilité de Dieu. C'est fou, comme on dit souvent, les trois reposoirs de la miséricorde. On va rentrer dans cette année de la miséricorde. C'est quoi? C'est un Dieu nu dans une crèche, entre un âne et un bœuf, un Dieu nu sur une croix, entre deux brigands, un Dieu nu là dans le tabernacle, et qui est bien présent, qui est là. Voilà, personne, sinon Dieu aurait pu inventer une religion, j'ai envie de dire, où Dieu est présenté comme un perdant, dans une crèche, sur une croix, dans un tabernacle. Et pourtant, c'est là qu'il est, c'est là qu'il manifeste. La manifestation de Dieu. Qu'est-ce qui est beau dans notre religion? Bethléem, la croix, l'Eucharistie. C'est ça qui dit tout l'amour de Dieu. Tout ce qui est beau, c'est ces trois mystères-là qui résument vraiment qui est notre Dieu. Alors, le curé d'Ars, vous connaissez, il rencontrait ce brave paysan qui priait le matin et il lui disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Le paysan disait « Je l'avise, il m'avise dans ce patois ». Son patois de là-bas, c'est qui exprime la réciprocité. Je le regarde, il me regarde. Je lui parle, il me parle. Je l'écoute, il m'écoute. Je l'aime, il m'aime. Vous voyez, donc c'est cette réciprocité de l'amour. Le curé d'Ars disait, lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le bon Dieu ouvrira le sien. Nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander, l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Et une référence alors différente, un conteur narrateur du XVIIIe siècle, Maguide de Mezrich, qui disait « Imaginez deux enfants qui jouent à cache-cache, mais l'autre ne le cherche pas. Dieu se cache et l'homme ne le cherche pas. Imaginez sa peine. Deux enfants qui jouent à cache-cache, s'il y en a un qui arrête de jouer et que l'autre est caché et qu'il attend, le pauvre enfant, il ne sera pas content. Il va être très, très triste parce qu'il joue et puis l'autre, il est parti. Alors, bien sûr, et voilà, il disait Dieu se cache, c'était Paul VI qui disait souvent Dieu. Alors, c'est dans Isaïe, je ne sais plus quand, Dieu est un Dieu caché, mais Dieu se cache dans l'Eucharistie. Il se cache dans l'Eucharistie pour qu'on le trouve, pour qu'on le rencontre. Et c'est vrai que c'est vraiment une source, un trésor. Et tellement, on a tellement de. Voilà, très souvent, on passe à côté. On a du temps pour tout le monde, pour toute chose. Mais est-ce qu'on a du temps pour lui, pour Jésus, qui est présent dans l'Eucharistie? Alors, je cite un peu Saint-Pierre Julien Aymard. Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin. Cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Voilà, 1 heure de paradis. Pourquoi de paradis? Parce que l'Eucharistie, c'est vraiment le ciel sur terre. C'est le ciel qui se penche sur terre. Et avec Jésus, vous avez la Vierge Marie qui est là. Moi, je suis sûr que si vous avez Jésus vraiment présent, vous avez la Vierge Marie vraiment présente. Vous avez tous les saints vraiment présents. Tous les défunts de nos familles qui sont déjà dans la lumière, ils sont là aussi présents. On a tout le ciel, tout le paradis. Aller devant le Saint-Sacrement, c'est vraiment comme aller au paradis parce que c'est le Christ. La seule différence, c'est que voilà, c'est dans la foi. Enfin, c'est-à-dire que pour nous, il faut poser cet acte de foi parce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux de chair, on peut voir uniquement avec les yeux du cœur si on pose cet acte de foi. Alors lorsqu'on sera dans la lumière, on n'aura plus besoin de poser cet acte de foi, mais on sera devant le même Jésus qui est là présent dans l'Eucharistie, avec les mêmes saints, etc. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Voilà. Alors quand on entre dans la chapelle d'adoration, vos soucis, vos problèmes, vous les laissez à la porte. Voilà, il y avait je ne sais plus dans quelle paroisse ils avaient mis sur la porte de la chapelle d'adoration, merci d'éteindre vos téléphones portables, de laisser vos problèmes, vos soucis ici à la porte, un truc comme ça, voilà. Et c'est vrai que souvent, on a tous des problèmes, plus ou moins petits, plus ou moins grands, mais nos problèmes, ils occupent souvent tout notre esprit, surtout quand on prie. Et alors, à ce moment-là, si on arrive avec nos problèmes, eh bien, on arrive avec moi, et en fait, on va rester pendant toute notre heure d'adoration sur nos problèmes, donc c'est nos problèmes, notre moi, et on va rester et on va repartir avec nos problèmes. Vous voyez, on arrive avec moi et on repart avec moi. Alors que l'adoration, c'est un vrai décentrement de soi-même. Je passe du moi au toi. Je passe de ma volonté pour Dieu à la volonté de Dieu. Il y avait un prêtre américain qui disait en plaisantant, dans l'Eucharistie, on vient contempler le mystère de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il faut savoir qu'il y a une autre Trinité. Alors en anglais, c'est « me, myself and I ». Vous voyez, moi, moi-même et je. Ça, c'est la Trinité qui est souvent dans mon cœur. Et souvent, on reste centré sur cette Trinité-là, vous voyez, et on oublie l'autre Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est là devant moi. Et donc l'adoration m'aide à passer de ma Trinité à moi, moi, moi-même et personnellement moi-je, à le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il y a un vrai décentrement de soi-même que l'on doit opérer, sinon on repartira déçu, insatisfait de notre adoration si on est resté sur notre Trinité personnelle. Alors, pour ça qu'il faut du temps, pour ça qu'il faut persévérer, pour ça que c'est important de s'engager, j'ai envie de dire, pour sortir de soi-même et pour aller rencontrer celui qui est là devant moi. Alors, ensuite, un point très important, c'est de méditer, c'est la méditation eucharistique. Souvent, on ne sait pas trop que faire devant le Saint-Sacrement, et c'est vrai qu'il n'y a pas tant à faire, comme on disait. Mais Saint-Pierre Julien Aymard disait qu'il y a un peu trois types de chrétiens qui viennent adorer. Il y a ceux qui considèrent l'Eucharistie comme une chose. C'est-à-dire c'est comme une statue. Une statue, on fait des prières, on espère que ça monte, et puis on se dit, bon, ben voilà, on verra bien si ça redescend un jour. Hein, voilà, comme une chose morte. Et c'est vrai que souvent, les chrétiens, ils voient l'Eucharistie comme une sorte de chose morte. Voilà, on va faire quelques prières, et puis on a fait nos prières, on repart, on est content. Il y en a d'autres, alors c'est bien déjà de faire ça, parce que c'est déjà un acte de foi. Hein, en soi, c'est déjà bien. Bon. Après, il y en a d'autres qui font un pas de plus, et qui voient dans l'Eucharistie une source de grâce, un soleil. Alors c'est vrai que souvent nos ostensoirs sont comme des soleils, et c'est un soleil, c'est une source de grâce, hein, j'en parlais plus tôt, mais en gros, on y va pour recevoir. On se dit, si je vais adorer, après je serai quelqu'un de meilleur. Après j'aurai reçu la force, je vais recevoir la lumière, je vais recevoir la paix. Donc en d'autres mots, on y va un petit peu pour soi, pour ce qu'on va recevoir. Et c'est vrai que Dieu est bon, Jésus est bon, donc il nous donne toujours en abondance, en surabondance. Hein, Dieu n'est pas chiche de ses grâces. Lorsqu'il nous voit, il nous donne en abondance. Et puis ensuite, la troisième dimension, c'est de rencontrer une personne, tout simplement. Une personne, c'est un cœur, hein, c'est ce que je disais un peu plus tôt. C'est pour voir, eh bien, créer une vraie amitié et de pouvoir, en fait, découvrir Jésus. Mais c'est Jésus vivant, c'est pas Jésus mort, c'est Jésus vivant qui vit, qui agit, et l'adoration consiste à regarder, à contempler ce mystère, pour étudier Jésus, pour imiter Jésus. Alors Saint-Pierre Julien disait ceci, « Là donc, au Saint-Sacrement, Jésus nous offre le modèle de toutes les vertus. Rien n'est plus beau que l'Eucharistie, mais seules les âmes pieuses qui communient, qui réfléchissent, peuvent le comprendre. Les autres ne comprennent rien. Il est peu de personnes qui pensent aux vertus, à la vie, à l'état de notre Seigneur au Saint-Sacrement. On le traite comme une statue. On croit qu'il n'est là que pour nous pardonner et recevoir nos prières. C'est faux. Notre Seigneur vit, il agit. Étudions-le, imitons-le. Si vous lisez l'Évangile, transportez-le en l'Eucharistie et de l'Eucharistie en vous. Vous avez alors une bien plus grande puissance. L'Évangile s'illumine. Vous avez sous les yeux réellement la continuation de ce que vous y lisez. » Alors, là, je m'arrête un instant sur la parole de Dieu, parce qu'on a besoin de l'Évangile. Hein. Celui qui ne connaît pas l'Évangile, il ne pourra pas adorer, parce qu'on ne va pas comprendre. Alors, on peut se laisser toucher par Jésus. Mais, en d'autres mots, lorsqu'on va lire l'Évangile, que ce soit l'Évangile du jour, ou on va méditer sur la vie d'un des amis de Jésus, en fait, on va tout simplement découvrir que, eh bien, on va regarder, en fait, on va dire, qu'est-ce que les amis de Jésus ont fait? Comment ils ont approché Jésus? Quelle était leur tenue? Quelle était l'attitude intérieure? Quelles étaient leurs paroles? Quelles étaient leur manière de s'approcher de Jésus? Et je vais les prendre en exemple, en me disant, ils avaient Jésus, le Verbe incarné, il y a 2000 ans. Il fallait quand même la foi pour le reconnaître, parce que tout le monde ne le reconnaissait pas. Et nous, on a le même Verbe incarné qui prolonge son incarnation qui est là. Et donc, je vais regarder comment les amis de Jésus ont approché Jésus, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, et je vais essayer d'approcher Jésus de la même manière. Je vais regarder les rois mages. Ils viennent, ils se prosternent, ils font des efforts, un grand chemin pour adorer, hein, le Verbe incarné. Je vais regarder Marie-Madeleine qui pleure ses péchés ou qui verse grand parfum, très grande valeur. J'aime bien rappeler que 300 deniers, c'est un denier, c'est une journée de salaire. 300 deniers, c'est 300 jours de salaire. Ça fait une année de salaire si vous rajoutez les vacances et les week-ends. Donc en gros, une année de salaire, elle achète un parfum. Et elle donne ce parfum à Jésus. On peut dire quelle générosité de cette femme, quelle grandeur d'âme, hein, quel amour elle avait pour le Christ. Et lorsqu'elle fait ça, voilà, Judas lui dit, mais c'est une perte de temps. Non, c'est un gaspillage. Tout cet argent, on aurait pu l'utiliser différemment. Et Jésus qui prend sa défense et qui dit, oh non. Et chaque fois que l'Évangile sera prêché, ce que vient de faire cette femme sera redit. Et on peut dire ici, ben, nous, ce n'est pas du parfum qu'on offre à Jésus, c'est notre temps. Notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, hein, n'est-ce pas? Et on choisit de donner du temps. Et de même que Marie-Madeleine, on la critique en disant, c'est un gaspillage. Vous aussi, je pense qu'il y a des gens qui vous ont dit, mais ton adoration, ça sert à rien, tu perds ton temps. Hein, ou alors c'est les pensées qui viennent dans notre tête. Il y a tellement de choses à faire sur terre, qu'est-ce que tu vas t'embêter? Qu'est-ce que tu vas perdre une heure de ton temps le jour ou la nuit, alors qu'on pourrait faire autre chose? Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Au nom, et chaque fois que l'évangile sera dit. Hein, et on peut dire pendant toute l'éternité, les anges, les saints rediront, voyez, toute la joie qu'on a pu donner à Jésus en venant l'adorer une heure par semaine. Alors, on peut dire aussi, on peut regarder la Vierge Marie, au pied de la croix, elle est debout. On peut regarder les disciples, Saint Jean, qui reposent sur le cœur de Jésus. Bref, regardez les amis de Jésus, leur relation avec Jésus il y a 2000 ans. Et qu'est-ce que sachez, et nous on peut imiter la même chose, et sachez que ce que Jésus a fait pour eux, la manière dont Jésus a répondu ou les a interpellés, eh bien c'est exactement la même chose que Jésus va faire aujourd'hui dans l'Eucharistie, parce que Jésus ne change pas. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a dit pour ses amis, il le fait, il le dit pour nous. Et donc c'est pour ça que Saint Pierre, Julien et Marc nous invitent tout simplement, en relisant l'Évangile, quand on voit Jésus, on peut se dire Jésus d'il y a 2000 ans, ou on peut se dire Jésus là devant moi. Hein. Et pour être dans cette attitude spirituelle qui nous permet de prolonger l'Évangile, ou l'Évangile s'illumine, comme il dit, vous avez sous les yeux réellement la continuation de ce que vous y lisez. Hein, donc, certes, c'était des privilégiés d'avoir pu voir Jésus dans sa vie, on va dire, mortelle, où il est mort, hein, sa vie naturelle, il y a 2000 ans, mais en même temps, nous avons le même Jésus aujourd'hui, et nous pouvons offrir à Jésus le même amour, la même action de grâce, par nos prières, par nos gestes, par tout ce que nous faisons, en venant l'aimer, l'adorer. Alors, l'adoration, c'est pas tant, alors c'est aimer de tout son cœur, mais c'est avant tout se laisser aimer. Hein, et c'est vrai que c'est plus difficile de se laisser regarder par Jésus. On est un peu nu hein, devant Jésus, il connaît tout. Hein. Et quand on est là, on ne cache pas grand-chose. Hein. On ne peut pas trop... Jésus, il nous voit. Et bien sûr, ce que Jésus désire en nous, ce n'est pas nos bonnes actions. Nos bonnes actions, c'est ce qu'il a déjà sauvé ou c'est ce qu'il a fait lui-même en nous. Mais c'est toutes nos moins bonnes actions... Tout ce qu'il n'a pas encore sauvé, toute cette partie, vous savez, un peu obscure dans notre vie, enfin, je parle pour moi en tout cas, peut-être pour vous c'est différent, hein, mais pour moi il y a encore beaucoup de choses à sauver dans mon cœur, il y a beaucoup de parties où je résiste, la lumière du Christ elle veut y aller, mais elle ne rentre pas parce que moi je dis non, c'est moi là, c'est pas... Hein, voilà. Et donc la vie chrétienne, l'adoration c'est, voilà, c'est laisser Jésus me regarder, se laisser aimer, laisser Jésus visiter les parties de son cœur qui ne sont pas encore sauvées, où justement je résiste à la grâce. Hein, et donc, à ce moment-là, eh bien, lorsqu'on accepte de se laisser regarder ou de se laisser évangéliser, alors dans toute ma partie, vous voyez, dans mon intelligence, accepter de ne pas tout saisir, tout comprendre, accepter de suivre le plan de Dieu, qui ne sont pas toujours ce que j'aurais pu choisir, me laisser évangéliser dans ma volonté. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Est-ce que c'est ma volonté? Seigneur, il faut que tu fasses ça, c'est tellement important, regarde. Alors, voilà. Alors, mais non, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Hein, est-ce que c'est ça? Donc, me laisser changer, voilà, c'est que ta volonté soit faite, qu'on dit dans le Notre Père, on ne dit pas que ma volonté soit faite. Donc, la prière chrétienne, ce n'est pas demander à Dieu de bénir ma volonté, mais Seigneur, que veux-tu? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, et non pas... Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. Voilà. Alors, j'ai bientôt fini. Il me reste quoi? Je crois que j'ai passé l'heure. On aura un petit temps de questions-réponses. Mais... Alors, Saint-Pierre, Julien et Marc. Allez à notre Seigneur comme vous êtes. Ayez une méditation naturelle. Épuisez votre propre fond de piété et d'amour avant de vous servir de livre. Aimez le livre inépuisable de l'humilité d'amour. Qu'un livre pieux vous accompagne pour vous mettre en bonne voie quand l'esprit s'égare ou quand vos sens s'assoupissent, c'est très bien. Mais rappelez-vous que notre bon maître préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées et affections empruntées aux autres. Hein. Souvent, voilà, on aime bien avoir un bon livre de prière, comme ça on fait une bonne prière, on se dit « Waouh, le Seigneur, il va être impressionné. Hein, » On se dit « Seigneur, attends, écoute ça un peu, là, tu vas voir, ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Alors qu'en fait, bon, le Seigneur est très content, toujours, mais il préfère de loin, hein, petite prière un peu maladroite, mais qui sort de notre cœur, spontanée, C'est ça hein, que le Seigneur aime. C'est ça que le Seigneur attend. Alors, c'est bien tentant d'avoir un livre, parce qu'en même temps, ça, quand on commence à avoir des distractions, hein, je vais en parler dans un instant, et qu'on commence à penser à tout sauf au Seigneur, un livre, ça nous recentre. Voilà. Mais en même temps, avant tout, sachez que dans l'adoration, on va pouvoir utiliser, oui, des plein de choses, mais il faut arriver à avoir un temps. Je ne sais pas combien de minutes, ça peut être 15 minutes au minimum sur une heure. Hein. C'est mieux si c'est un peu plus, où on laisse Jésus voilà, nous aimer, nous regarder, nous saisir, parler à notre cœur. On laisse Jésus hein, être le potier et nous, l'argile dans sa main. On se laisse façonner par son Esprit Saint qui est là, qui nous transforme. Alors c'est vrai que Mère Teresa de Calcutta, elle aimait commencer son heure d'adoration quotidienne par le chapelet. Et parce que le chapelet, c'est une vraie prière christocentrique. Vous voyez, en fait, Marie n'est jamais une fin en tant que telle. Quand vous passez par Marie, eh bien, en fait, on pense souvent que c'est un détour, parce qu'en fait, c'est Jésus qui est le médiateur, qui nous conduit à Dieu. Mais en fait, les Grignon de Montfort, il nous dit, qu'est-ce que Marie fait? Elle prend notre prière, elle va l'embellir. Non, d'abord, elle va la purifier. Toujours un peu d'amour propre. Même quand on va adorer, il y a toujours un peu d'amour propre. On y va un peu pour soi aussi, pour ce qu'on va recevoir. Hein. Donc, dans nos actions, toutes nos activités, nos services paroissiaux et tout ça, donc, voilà, Marie purifie notre démarche. Elle embellit, elle rajoute, parce qu'elle est parfaite dans toutes les vertus, toutes les qualités, la Vierge Marie. Donc, elle va rajouter si on manque d'espérance, si on manque d'esprit d'humilité, si on manque de je ne sais quoi. Et elle présente tout à Jésus. Donc, on pourrait dire qu'en passant par Marie, hein, ce n'est pas un détour, mais c'est comme si Marie va aspirer notre prière qui va aller encore plus vite à Jésus parce que c'est la Vierge Marie qui la prend dans ses mains et qui va voilà, purifier, embellir, présenter. Hein, c'est les trois mots de Grignon de Montfort par rapport à tout ce qu'on fait pour la Vierge Marie. Donc, Mère Teresa aimait commencer un quart d'heure, le chapelet, et elle priait Jésus en méditant, elle priait Marie en méditant sur un mystère de la vie de Jésus. Et en méditant sur les jardins, Jésus au jardin des Oliviers, par exemple, ou à Gethsémani, Jésus qui dit « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ?» Eh bien là, on a le même Jésus qui m'appelle aujourd'hui à veiller une heure avec lui. Et on peut revoir hein, tous les mystères. Grignon de Montfort rappelait que l'adoration est un prolongement de la messe. Et vous savez, dans les anciens catéchismes, on disait qu'il y avait les quatre fins, les quatre buts de la messe. C'est un sacrifice d'adoration, d'action de grâce, de réparation, d'intercession. Alors lui, il aimait bien couper en quatre l'heure d'adoration pour prolonger la messe, hein, une partie où on commence par l'amour, on adore profondément, physiquement, spirituellement, mentalement, à tout niveau. Ensuite, une partie pour rendre grâce, Seigneur, merci pour ceci, pour ta présence, pour ton amour, pour l'Église, pour tout ce que tu me donnes. Une partie pour, ensuite, un temps pour réparer, demander pardon, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai vu. Tous les manques d'amour là autour de moi, Seigneur, je te demande pardon, je te demande de bénir, c'est de toucher, guérir tous ces cœurs blessés, et un temps pour l'intercession. Seigneur, j'ai besoin de cela, de ceci, de cela. Donc on peut aussi, vous voyez, utiliser ces anciennes méthodes, mais bon, moi je pense qu'il faut laisser l'Esprit Saint agir dans notre cœur et laisser le guider. Hein, donc on peut utiliser un chapelet, on peut utiliser un livre de prière, on peut utiliser plein de choses, mais avant tout ce qui compte c'est ce temps hein, où on est en silence devant Jésus, on laisse Jésus nous regarder, nous aimer. Alors, deux derniers points, il me reste, bon je vais aller très vite, c'est la position du corps, j'aime bien rappeler ça, parce que nous en France on aime être debout, bon c'est bien d'être debout, hein, mais c'est vrai que dans l'adoration, si vous regardez l'adoration dans l'Ancien Testament, Moïse, bon, on ne sait pas trop comment il s'est fait, on sait que devant le buisson ardent, il a enlevé ses sandales, parce qu'il s'est mis à genoux, peut-être, mais on voit dans l'Apocalypse, à l'autre bout de la Bible, les rois de la terre qui se prosternent, hein, qui jettent leur couronne aux pieds de l'agneau, l'agneau immolé, Jésus, et la couronne, c'est tout ce qu'ils ont, hein, tout leur talent, leur tout ce qu'ils ont pu, voilà, tout ce qu'ils ont, et en même temps, en se prosternant, c'est tout ce qu'ils sont, hein, tout ce qu'ils ont, qui est profondément prosterné devant le Christ en adoration. Voilà, dans l'étymologie, vous savez, la double étymologie, Benoît XVI rappelait du mot adoration, il y a le mot proskunesis, c'est cette soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. C'est mon créateur. Si j'existe, c'est parce qu'il le veut. Il me maintient en existence. Et si Dieu m'oublie un centième de seconde, mon être disparaît dans le néant. Tant que j'existe, c'est parce que Dieu m'environne de son amour, m'entoure, me tient, me soutient de son être, de son amour. Et en même temps, donc proskunésis, mais en même temps, ad os, adoratio, c'est contact, baiser, accolade. Hein, donc c'est, il y a une dimension de soumission à notre Dieu, et en même temps, mais d'amour, en même temps, à celui qui a pris ma condition humaine, hein, pour me dire combien il m'aime, et qui a voulu même prendre, s'abaisser devant moi. Et alors c'est là où le pape Benoît XVI donne une citation que j'aime beaucoup rappeler. « L'adoration eucharistique est le remède le plus valable et radical contre les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut pas et ne doit pas se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chrétiens, nous nous agenouillons devant Dieu, que devant le Très-Saint-Sacrement, parce qu'en lui, nous savons et nous croyons qu'est présent le seul Dieu véritable qui a créé le monde et l'a tant aimé au point de lui donner son Fils unique. Nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est d'abord penché vers l'homme pour le secourir et lui redonner vie. Et il s'est agenouillé devant nous pour laver nos pieds sales. » Vous voyez, c'est intéressant. Jésus qui s'est mis à genoux devant l'homme pour le purifier de son péché. Et c'est devant ce Dieu qui s'est mis à genoux devant l'homme que nous nous mettons à genoux pour retrouver notre propre dignité. Et donc ce que nous dit Benoît XVI, c'est que c'est en nous mettant à genoux devant Dieu qu'on retrouve notre vocation, qu'on retrouve la vocation de l'homme, et qu'on pourra ensuite être debout devant contre les idéologies, hein, pour défendre les plus pauvres, bref, pour nous engager selon l'esprit de l'Évangile. Mais si on ne commence pas par s'agenouiller devant notre Dieu, on risque de s'agenouiller, hein, devant les hommes. Alors c'est vrai qu'on se dit s'agenouiller, c'est dans le sens large, on peut le dire de manière physique et concrète. C'est vrai que moi je remarque que on sait qu'on est des personnes, il y a une âme et un corps, et si on met son corps à genoux quelques instants, ça nous aide à mettre notre âme dans une attitude spirituelle de prière. Quand on met son corps à genoux, on met son cœur à genoux. Vous voyez ? Si on met son corps en situation de dormir, on met son cœur en situation de dormir. Hein, souvent, ça va un petit peu ensemble. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester à genoux pendant l'adoration. Si on peut, si on ne peut pas se mettre à genoux parce qu'on a mal ou je ne sais pas quoi, c'est absolument pas grave. Ce n'est pas du tout une finalité en soi. Mais c'est vrai que ça nous aide véritablement de prendre un temps pour nous mettre à genoux, quitte si jamais on est dans les distractions, de nous remettre simplement le simple fait de nous remettre à genoux quelques instants, nous recentre sur la présence de l'Eucharistie. Hein, c'était Etty Hillesum, vous connaissez cette jeune femme juive néerlandaise, alors qui n'était pas en soi chrétienne, c'était une juive, mais c'était en fait une grande mystique, on pourrait dire, qui a pénétré en fait la spiritualité chrétienne d'une manière incroyable, tout en restant juive et en étant déportée et mise à mort dans les camps de concentration. Et elle écrit ceci, où j'ai retrouvé ce paragraphe. Elle est déportée à Auschwitz, où elle mourut dans les derniers jours de 1943. Professeure de russe à Amsterdam, intellectuelle raffinée, elle se retrouva au cœur de la tourmente nazie. Lorsque les atrocités commencèrent contre les juifs, elle fut aussi arrêtée. Depuis les camps où elle séjourna, Etty put écrire quelques lettres et un journal dans lesquels apparaît toujours l'amour plus fort que la mort. Au cœur de la souffrance, elle écrit « Tout mon être est en train de se métamorphoser en grande prière. » Au milieu de l'enfer, de la déportation, lorsque l'horreur devint insupportable, Etty laissera ce dernier message « J'avais envie de m'agenouiller sur le carrelage » au milieu de tous ces gens. Le seul geste de dignité humaine qui nous reste en cette époque terrible, s'agenouiller devant Dieu. Hein, et c'est vrai, c'est retrouver notre vraie place devant Dieu, pour ensuite trouver notre vraie place dans nos engagements avec les autres. Alors je termine avec les sécheresses. Hein, comprenons que les aridités, ce qui rend l'heure sainte, on parle d'une heure sainte, c'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas nous qui rendons l'heure sainte par nos grandes prières très mystiques, très spirituelles, hein, mais c'est ce que Dieu fait, c'est-à-dire qu'il nous sanctifie, il nous comble de son Esprit saint. Et donc souvent, c'est vrai que le Seigneur, lorsqu'on commence l'adoration eucharistique, il veut nous encourager, donc il va nous donner des grâces sensibles. On sent la paix, on se sent bien, on est heureux, on sent une présence. Et en soi, il faut bénir le Seigneur. Mais ensuite, il y a toujours ce risque de transformer l'adoration en une sorte de yoga spirituel. C'est-à-dire qu'on y va parce qu'en fait, spirituellement, ça nous fait du bien. Mais en fait, le bon Dieu, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est nous. On se sent mieux après qu'avant, donc on y va. Et donc, le risque, c'est non plus d'adorer Dieu, mais de s'adorer soi-même ou d'adorer les consolations de Dieu et non pas le Dieu des consolations. Et le Seigneur, dans sa pédagogie, souvent, va tout simplement nous aider à nous détacher de ces consolations sensibles en les enlevant. Et alors, on vient adorer, et puis un beau jour, oh là là, l'heure est si longue, l'heure est si difficile. Je me souviens qu'il y avait un adorateur qui disait en plaisantant, ou peut-être pas en plaisantant, je ne sais pas, à un moment, il venait, c'était très difficile l'adoration pour lui, il ne comprenait pas, alors que ça avait été tellement beau, tellement facile, et il pensait que c'était le prêtre qui s'était trompé, qui avait mis une hostie non consacrée, vous voyez, voilà. Et donc ça ne marchait plus, ça n'avait plus les mêmes effets. Alors comprenons que si le Seigneur ne nous donne plus des grâces sensibles qui touchent notre sensibilité, généralement il en donne toujours quand même un petit peu, mais s'il n'en donne plus, eh bien c'est pour nous aider à dépasser cela. Je vais adorer pour Dieu. Ce qui compte, c'est pas les gens qui disent « moi j'arrête d'adorer parce que je ressens plus rien ». Non, on ne va pas adorer pour ce qu'on reçoit, mais pour ce qu'on donne, parce que c'est l'attitude d'être devant Dieu. Alors, saint Aymar, et je finirai par Fénelon, « vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez alors votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse. Tout se révolte en vous, tout vous porte à quitter l'adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation, c'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne lui déplaisez pas, vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Donc il faut simplement rester fidèle dans cette démarche d'engagement pour laisser Jésus, peut-être qu'il donne cette grâce plus sensible à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que nous, ou peut-être qu'il nous donne certainement des grâces plus intérieures de foi, de fidélité. Et je conclue avec Fénelon, c'est par le cœur que nous faisons oraison, et une volonté sincère et persévérante de la faire est une oraison véritable. Les distractions, qui sont entièrement involontaires, n'interrompent pas la tendance de la volonté vers Dieu. N'attaquez pas de front les distractions, c'est se distraire, que de contester contre la distraction même. Le plus court est de laisser tomber. Vous passeriez tout votre temps à combattre comme les mouches qui font du bruit autour de vous. Laissez-les bourdonner à vos oreilles. Accoutumez-vous à continuer votre voyage comme si elles étaient loin de vous. Prenez les endroits de l'Évangile qui vous touchent le plus, lisez lentement et à mesure que quelques paroles vous touchent, faites-en ce qu'on fait d'une converse qu'on laisse longtemps dans sa bouche, l'y faire fondre. Laissez cette vérité couler peu à peu dans votre cœur. Bref, c'est le français un peu ancien, mais tout simplement pour la persévérance, la fidélité, reprenez l'Évangile. Dans les difficultés, reprenez un livre de prière, remettez-vous à genoux quelques instants et sachez que le Seigneur fait toujours passer, mais il nous aide à le rechoisir et à recentrer notre vie sur lui lorsque on a pu un peu s'éloigner de lui. Voilà, donc je m'arrête là et j'ai quand même pris un peu plus que prévu. Alors, s'il y a une ou deux questions ou alors on arrête là, c'est peut-être tard, non, on finit là. Si vous voulez, s'il y en a qui doivent y aller, vraiment, allez-y, ne vous sentez vraiment pas gêné. Enfin, pas de problème, si on vous attend chez vous. Oui. Alors, la louange, qu'est-ce que vous voulez dire comme louange? Quelle forme de louange? Alors, ça fait partie, si on reprend Saint-Pierre, Julien et Marc, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce, la louange. C'est-à-dire, dans l'adoration, il y a une partie pour la louange. Merci Seigneur pour ta présence, pour le don de la vie, pour ton salut, pour d'avoir envoyé Jésus-Christ qui est là présent devant moi. Donc, il y a cette dynamique-là, cette dimension, on la trouve dans la messe, on l'exprime à travers des chants de louange, mais elle doit faire partie aussi de notre adoration. Donc, non, mais je comprends, mais enfin, je ne sais pas si je comprends bien, en fait, mais la prière en tant que telle, oui, transforme le monde, déjà transforme mon cœur et veut transformer le monde. Après, la louange, c'est vrai que... Comment ? Oui, bah, le combat contre le mal, on le trouve, moi j'ai envie de dire, pour moi il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. C'est ce passage où on voyait Moïse qui luttait contre les Amalécites. Vous savez, lorsqu'il élève les bras, Dieu donne l'avantage. Alors, élever les bras, c'est un cœur tendu vers Dieu. Vous voyez, alors, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est l'intercession. Et à un moment, ses bras s'alourdissaient, il découvre que ce sont les ennemis d'Israël qui ont l'avantage. Donc, il demande à Aaron de maintenir un bras, à Our de maintenir l'autre bras vers Dieu. Et à ce moment-là, Dieu donne la victoire totale à son peuple sur ses ennemis. Donc, on peut dire que c'est... Ce qu'on voit, c'est que c'est Dieu qui donne la victoire. Elle passe par les intercesseurs et ensuite, elle se concrétise, bien sûr, sur le terrain. Hein? Donc, il y a une place pour l'intercession, il faut intercéder. C'est pour ça qu'il y a une chapelle d'intercession, d'adoration. C'est un lieu où on porte l'Église, on porte la paroisse, on porte la ville, on porte le monde. C'est l'adorateur, c'est le Moïse qui est sur la montagne, qui a le cœur tendu vers Dieu. Et par sa prière, Dieu donne l'avantage à l'Église, à son peuple, sur ses ennemis, à travers la miséricorde, la louange, voilà. Mais après, si je pense dans l'Apocalypse, c'est en Apocalypse 12, 11, je crois, il est dit, les compagnons de l'agneau l'ont vaincu, le mal, le démon, par le sang de l'agneau et par leur témoignage qui va jusqu'à donner leur vie. C'est-à-dire que alors là, c'est... Une dimension spirituelle, c'est l'Église qui est vainqueur du démon par le sang de l'agneau et leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie rend présent ce sang qu'il a versé sur la croix, il est rendu présent par la messe et de manière continue à travers cette adoration qui prolonge la grâce de la messe. Donc en venant prier, le sang de l'agneau vient se diffuser, se répandre sur tout le monde et en même temps, d'une manière mystérieuse, mais c'est comme ça, par notre témoignage. C'est-à-dire qu'il faut témoigner. Voilà, il y a la prière, c'est ça, c'est la prière qu'on fait d'adorer. Et puis, il y a notre témoignage qui fait partie du plan de Dieu pour faire tomber le mal. On a besoin de témoigner de cette bonne nouvelle. Il faut y aller, il faut annoncer, il faut parler. Ça fait partie de ce plan de Dieu. Voilà. Bon, après, je ne sais pas si c'est... On pourrait répondre différemment. C'est juste une dernière question. Oui.
Fallait imiter Jésus-Christ. Pourquoi ne pas recommander à tous les adorateurs l'imitation de Jésus-Christ, le petit livre ?
Excellent.
Il y a centaines d'années peut-être.
Excellent.
Je recommande simplement.
Voilà. Non, mais c'est excellent, l'imitation. Voilà, c'est des sommets, des chefs-d'œuvre de spiritualité. Bon, après, c'est très concis, c'est très dense, mais en même temps, c'est des trésors. Ça fait partie des petits... voilà, il y a toute la vie chrétienne qui est concentrée dans ce recueil-là. Et l'imitation de Jésus-Christ, c'est parfait, quoi. Voilà. Bon, on va dire à notre Père, peut-être. À moins que vous vouliez dire... Père, vous voulez dire quelque chose ou... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Amen.